On continue notre série sur la vie de Moïse. Et on est arrivé à un épisode extraordinaire. Cet épisode dans le désert, environ 1400 ans avant Jésus-Christ. Un épisode marquant pour le peuple d'Israël. Et je vous invite à le lire. Et tout d'abord, en Nombre, chapitre 21, les versets 4 à 9. Nombre, chapitre 21, et les versets 4 à 9. Le peuple d'Israël partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, il le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Terrible événement. Le peuple murmure, ça c'est une habitude pour le peuple, on pourrait dire. C'est malheureusement pas la première fois, mais ils montrent à nouveau leur ingratitude envers Dieu. Et vous avez remarqué qu'ils ont en particulier un mépris pour la manne. Nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Il faut savoir que la manne, c'est l'image de la provision de Dieu envers son peuple. C'est l'image de Jésus-Christ, le pain venu du ciel, le seul pain qui puisse nous rassasier, le seul pain qui puisse nous sauver, le pain de vie, comme il se décrit lui-même, nous donnant la vie à nous tous. Et le peuple méprise cette manne. Vous savez, quand je pense à cette situation, je me dis qu'à la place de Dieu, j'aurais arrêté tout net d'envoyer la manne. J'aurais laissé le peuple mourir de faim dans le désert. Tu veux pas le pain venu du ciel ? Tu veux pas l'eau du rocher ? Qu'à cela ne tienne. Plus rien. Mais Dieu est animé d'autres sentiments, heureusement pour nous tous. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il aime ce peuple. Il aime ce peuple. Et il veut montrer que leur problème n'est pas l'eau du rocher. Le problème n'est pas avec la manne. Le problème, il est avec leur propre cœur. Et leur propre cœur est infesté d'un mal terrible qu'on appelle le péché. Et il va leur donner une illustration de cette vérité en envoyant des serpents brûlants. Jusque-là, le Seigneur a préservé le peuple de tous les serpents du désert. J'ai cherché, mais je me souviens d'aucun moment où on apprend qu'un seul être d'Israël ait été mordu par un serpent. Or, les serpents, certainement des cérastes, là, des vipères, se cachent dans le sable partout dans le désert, en particulier dans cette région où ils étaient. Personne n'a été mordu. Mais maintenant, Dieu veut leur faire apprendre une leçon. Alors il ne les protège plus, mais au contraire, il envoie les serpents, et les serpents commencent à faire leur travail de destruction. Alors ce matin, je vous propose de voir ensemble, tout d'abord le venin, on verra ensuite l'antidote, et puis enfin, on verra la prise de l'antidote. Le venin. Les serpents sont ici nommés serpents brûlants parce que certainement ils provoquent une douleur violente, comme une brûlure au moment de la morsure. Et aussi en raison de la forte fièvre qui accompagne l'empoisonnement du corps, le corps cherche à résister et fait monter une fièvre terrible. Il existe deux catégories principales de venin. Alors, je ne sais pas de quel venin il s'agit ici. Il y a les neurotoxiques et les hémotoxiques. Les venins neurotoxiques s'attaqueront au système nerveux et entraîneront généralement une paralysie totale et en particulier une paralysie du système respiratoire et c'est la mort. Les venins hémotoxiques, eux, vont dissoudre les tissus, provoquer des hémorragies et détruire les vaisseaux, nécroser la chair. Choisissez votre venin. En tout cas, dans les deux cas, c'est pas beau à voir. Et quoi qu'on y fasse, une fois mordu, le poison fait son effet jusqu'à une agonie mortelle. Je crois que Dieu veut leur montrer que ce qui sort de leur bouche révèle le poison qui coule dans leurs veines. Paul fait le même diagnostic dans l'Épître aux Romains quand il cherche à décrire toute la race humaine. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Leur gosier est une tombe ouverte, un sépulcre ouvert ». C'est-à-dire que normalement, on ferme les sépulcres pour ne pas voir la puanteur et la mort et la décomposition. Mais ici, il décrit la race humaine et il dit leur gosier, leur bouche, c'est un sépulcre ouvert. Alors on peut voir et on peut sentir tout ce qu'il y a de mort dans leur bouche. La bouche de l'homme non régénéré, à savoir. Les paroles grossières, méchantes, sortent de leur bouche et révèlent la déchéance de notre propre cœur. Et puis il continue sa description en disant, écoutez bien, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspie ou un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Quand Paul décrit la race humaine, il dit ce qui les caractérise, premièrement, c'est leur bouche. Les animaux, eux, ils peuvent chanter, ils peuvent rugir, etc., mais ils ne disent pas du mal les uns des autres. Et ils ne commencent pas à plaider, à murmurer contre Dieu et à murmurer contre Moïse et contre les autres. Mais ce qui caractérise la race humaine, c'est cette capacité à montrer leur ingratitude, leur méchanceté de cœur et à se jeter du venin. J'ai vu ça dans mes recherches sur Internet, il y a des serpents. J'ai vu un serpent qui combattait un lion. Vous voyez le lion, il s'approche, il regarde, il ne sait pas trop par où il va le prendre. Et il y a le serpent qui est là. Et puis, à un moment, il projette un venin sur 3 mètres. Et en plein dans le visage du lion. Et le lion, waouh, caille, caille, caille. Et c'était pas comme ça. Mais voilà comment il a pris peur. Le lion a pris peur. Il a eu mal. C'est exactement ce dont nous sommes capables. Il y a sur leurs lèvres un venin d'aspie. Quelque chose de terrible que l'on peut projeter et tuer avec nos lèvres. Ils viennent de prononcer des paroles contre Moïse et contre Dieu. Dieu leur dit, vous êtes des serpents. Vous êtes tous des serpents. et vous crachez votre venin. » Alors que Jésus venait de guérir un démoniaque aveugle et muet. Les pharisiens dirent, cet homme, Jésus, ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Vous imaginez la chose ? Jésus guérit un homme, il était possédé, il était aveugle, il était muet, et puis maintenant ils disent, ah, c'est par le diable, c'est par Belzéboul que lui, cet homme, il fait toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'attribuer au diable l'œuvre du Saint-Esprit faite par Jésus-Christ. C'est simplement du blasphème. C'est quelque chose de détestable au possible. Et Jésus, quand il doit leur répondre, voilà ce qu'il dit. Écoutez ça. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous sommes tous atteints également par ce poison. Nos paroles témoignent contre nous, révélant la pourriture, la noirceur de nos cœurs. Nous sommes vivants, semble-t-il, mais déjà mordus par le serpent. Le venin agit déjà et ruine nos vies. À la fin de cet épisode où Jésus répond aux pharisiens, il leur dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Dans notre passage, au verset 6, il nous est dit qu'il mourut beaucoup de gens en Israël à cause des serpents brûlants, comme il meurt beaucoup de gens autour de nous aujourd'hui, à cause du poison du péché qui est dans nos veines. Regardons l'antidote. Au verset 7, « Alors le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché et nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Vous vous rendez compte de la chose? Ils viennent de dire à Moïse, « Mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as embarqué? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? Pourquoi tu nous as conduits là? On en a marre du désert, on en a marre de toi. » On a vu la dernière fois qu'il voulait se donner un autre gars et licencier Moïse comme conducteur. Ils viennent vers lui, ils disent, « Ah, Moïse, on a péché contre toi. » Moïse, heureusement Moïse était l'homme le plus patient de la terre. On l'a déjà vu ce verset. Je ne sais pas comment, quand les gens parlaient mal contre vous, vous réagissez après. Ils viennent vous voir. Vous avez juste envie de dire, « Hein, les serpents ?» Dommage. Mais Moïse a un cœur d'intercesseur pour ce peuple. C'est cela qui est merveilleux. Il porte ce peuple sur son cœur. Eux, ils réalisent que ils sont totalement indignes de s'approcher de Dieu, qu'ils ont besoin d'un médiateur. Alors ils viennent devant Moïse, qui a déjà intercédé plusieurs fois en leur faveur. Il semble que son pardon à lui leur soit déjà acquis. Aussi, ils demandent à Moïse de plaider leur cause devant Dieu. « Prie l'Éternel qu'il éloigne de nous ces serpents. » Notez au passage qu'il est clair pour eux, sans que personne ne le leur explique, qu'il y a un lien de cause à effet entre les serpents, plutôt entre leurs mauvaises paroles, et les serpents, et la mort. Et Moïse, fidèle intercesseur, prie pour eux, et Dieu donna un antidote. Il n'a pas éloigné les serpents, comme l'avait demandé le peuple. C'est intéressant, ça. Il n'a pas éloigné les serpents. De la même manière, il nous fait souvent porter les conséquences du péché. Les conséquences parfois visibles du péché. Néanmoins, il donne un antidote. Et c'est cela qui est merveilleux, c'est que l'antidote annule l'effet du poison. Les serpents peuvent encore mordre, mais l'antidote annule l'effet de la morsure. Moïse, sur ordre de Dieu, fait un serpent brûlant en bronze. Il le fixe sur une perche à la vue de tous. Et quiconque avait été mordu et simplement regardé au serpent conservait la vie. Le serpent de Moïse, il n'est pas préventif. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas regarder le serpent avant d'avoir été mordu. Comme ça, vous êtes tranquille. Non. Le serpent, il est pour ceux qui ont été mordus. Pour ceux qui sont déjà infestés. Pour ceux qui savent que le poison est en eux et que sans intervention divine, ils mourront. Le moyen que Dieu choisit pour sauver le peuple de sa malédiction, eh bien, c'est une image de la malédiction. Regardez maintenant Jean chapitre 3. J'ai hésité à lire ce verset-là juste au début. Jean chapitre 3, c'est cet épisode où Nicodème, chef des Juifs, pharisien, docteur d'Israël, connaissant les Écritures, vient rencontrer de nuit Jésus et l'interroge. Et voilà ce que Jésus lui dit, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est extraordinaire. C'est Jésus qui fait lui-même la comparaison entre lui et le serpent d'airain. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Si Jésus ne l'avait pas fait lui-même, personne n'aurait osé comparer Jésus à un serpent. Comparer Jésus à un agneau sans défaut et sans tache. Oui, on est prêt à faire ça. Mais vous rendez compte, comparer Jésus à un serpent. Le serpent, c'est l'objet de la malédiction. C'est la figure sous laquelle est venu le diable pour séduire Adam et Ève. C'est le nom que la Bible lui donne. Le diable, c'est le serpent ancien. Il est condamné à ramper sur la terre. Aujourd'hui encore, il affole tout le monde. Et Jésus dit, je suis le serpent. C'est-à-dire, je m'identifie à vous, race humaine, race de vipère, race contaminée par ce venin du péché. Je m'identifie à vous. Oh, il n'y avait aucun péché en Jésus. Il n'avait rien à voir avec le péché, il n'avait rien à voir avec le diable. Mais il s'est identifié à nous pour porter nos fautes. Le serpent de Moïse, lui, s'il était semblable au serpent brûlant qui tuait le peuple, il n'avait pas de venin. Jésus n'a pas de venin. Il était suspendu au bois, totalement inoffensif. Mais il rappelait leur péché à tous, leur nature de serpent et la raison pour laquelle il mourait. Jésus a dit ces paroles lui-même à un chef des Juifs qui connaissait très bien cet épisode du peuple hébreu au désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Élevé sur le bois. Quelque temps plus tard, Jésus répondant aux pharisiens au chapitre 8 et au verset 28 dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Quand vous aurez élevé. Au chapitre 12 de l'évangile de Jean, au verset 32, Jésus dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et finalement, Jésus le juste a été condamné par les principaux sacrificateurs qui ont réclamé à Pilate qu'il soit crucifié. Et au chapitre 18 et au verset 31, il est dit, sur quoi Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était le moment de la Pâque, ils ne voulaient pas faire ça. Et regardez verset 32, « C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. » Vous voyez, les Juifs, eux, quand ils condamnaient à mort, c'était une mort par lapidation. Donc, si les Juifs avaient mis à mort Jésus, ils l'auraient mis à mort par lapidation. Mais ils ont dit, non, ça ne nous est pas permis de le faire par lapidation. Alors, Pilate a dit, ok, je vais le faire. Mais nous, les Romains, on ne lapide pas. On trouve ça cruel. On a la croix. Pire encore. La crucifixion. Et la Bible dit, « C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. » Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, sur le mont Golgotha, au-dessus de la ville de Jérusalem, sur le bois, sur une croix, Jésus, à la vue de tout le peuple, a été élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce jour-là, sur le mont Golgotha, il y avait aussi un certain Nicodème. Il était venu de nuit pour rencontrer Jésus, mais là, il a compris ses paroles. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et c'est à moi qu'il a dit ça. Il était en train d'annoncer sa mort. Il n'a pas été victime des hommes. Il s'est donné lui-même. Il s'est offert lui-même en sacrifice. Et là, Nicodème a cru que Jésus est le Fils de l'homme, venu mourir pour ses propres péchés. Alors qu'il était venu de nuit, il est venu de plein jour pour prendre le corps de Jésus avec Joseph d'Arimathée. Et puis, ils sont allés déposer son corps dans un tombeau. Enfin, regardons la prise de l'antidote. L'antidote est vraiment efficace pour sauver les pécheurs. Il est vraiment efficace pour sauver tous ceux qui ont été mordus. On peut facilement imaginer toutes sortes de réactions à cette solution donnée par Dieu. Mais certains ont dit, mais réfléchissez un petit peu. Quel est le rapport entre une morsure de serpent et le fait de regarder à un morceau de ferraille fixé sur une croix ou sur un bois? Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de rapport? Ça ne sert à rien. Quelques-uns ont dit non. Et moi, je connais, j'ai déjà été mordu. Et je peux vous dire, la seule chose qu'il faut faire, c'est il faut faire un garrot. Il a fait un garrot, il est mort. Un autre est venu et dit, non, c'est pas le garrot qu'il faut faire, c'est, il faut inciser la plaie et aspirer le venin. Là, les deux sont morts. D'autres sont venus en disant, non, il faut plonger la morsure dans l'eau chaude. Il est mort ébouillanté, en plus. Non, il faut appliquer un cataplasme de feuilles sur la plaie. Il est mort. Non, il faut boire une infusion d'herbe. Il est mort. En fait, ils sont tous morts. D'autres ont même dit, oh, il faut faire comme si de rien n'était, en fait. Oh, ils sont morts. Voyez-vous, aujourd'hui encore, plutôt que d'accepter l'antidote de Dieu, Jésus-Christ mort à notre place, certains préfèrent leur propre solution. Certains vont dire, non, non, contre le péché, en fait, il faut un pèlerinage. Il faut faire un pèlerinage à Lourdes ou à la Mecque. Ils vont mourir. Non, il faut donner de l'argent, en fait, parce que pour vaincre le péché, il faut beaucoup d'argent. Ah, il faut donner aux pauvres, ou il faut donner à l'Église. Ceux-là aussi vont mourir, dépouillés. Non, il faut faire des œuvres charitables. Par exemple, vous pourriez faire carême ou ramadan. Vous allez mourir. Si ces choses pouvaient sauver, Christ ne serait pas mort sur la croix. Si ces choses pouvaient sauver, Christ serait mort en vain. Mais parce que la seule chose qui puisse sauver un homme, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est pour ça que Dieu a donné cette seule solution. Christ en croix. Même si ses œuvres, certaines de ses œuvres sont recommandables, elles ne peuvent pas sauver de la morsure du péché. La morsure entraîne la mort et donc pour en être sauvé, il faut que quelqu'un meure à notre place. Il ne s'agit pas de savoir qu'il existe simplement un antidote. Il faut le prendre. Vous pouviez savoir qu'il y a une perche et qu'un serpent qui a été dressé, mais si vous ne regardiez pas, vous n'étiez pas guéri. Vous n'étiez pas sauvé. De la même manière, Christ a été élevé, Christ a été crucifié. Et il nous faut croire en Christ crucifié pour nos péchés, à notre place. Il nous faut regarder à Jésus-Christ. Il avait dit à Moïse, ils avaient dit à Moïse, le peuple, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Nous avons péché. Quand on regarde à la croix, on dit « C'est parce que j'ai péché. Si je n'avais pas péché, tu n'aurais pas besoin de mourir sur cette croix. » S'il y avait une autre solution, tu n'aurais pas eu besoin de donner Jésus-Christ à ma place. Et donc, regarder au serpent de Moïse, c'était reconnaître que l'on avait été mordu et que l'on allait mourir. De la même manière, regarder à la Jésus-Christ en croix, c'est reconnaître qu'on est des pécheurs et que l'on va mourir à cause de nos péchés. Regarder, c'est croire. C'est se reposer sur ce que Dieu a dit, sur ce qu'il a fait. Nul mérite. Regardez, c'est la chose la plus simple qui soit. C'est la plus facile. Elle ne demande aucun effort, aucune connaissance particulière. Il n'y a pas une université où on apprend à regarder. Non. Simplement, on regarde. Un bébé est capable de regarder. Regardez, c'est probablement la seule chose que pouvait faire celui qui était mordu. Il était gagné par une fièvre en sueur et d'aussi loin qu'il était de la perche et du serpent d'airain, il pouvait juste ouvrir ses paupières et regarder, plaçant toute sa foi, toute sa confiance dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Regarder, c'est faire confiance. C'est faire confiance et obéir à l'antidote de Dieu. C'est croire que Dieu est pleinement satisfait par l'offrande de Christ à la croix. J'aimerais vous lire le récit de la conversion de Charles Spurgeon que l'on trouve dans le livre de Alfred Kuhn, il faut que vous naissiez de nouveau. Je lis juste quelques extraits. Charles Spurgeon était un prédicateur. On l'appelait le prince des prédicateurs à cause de la force, la puissance que Dieu a donnée à sa prédication. Il est dit, « Dès l'enfance, Dieu me convaincit de péché. Je me sentais misérable, sans espérance, sans réconfort, pensant que jamais il ne voudrait me sauver. Cet état empirant avec les années. Je devins tout à fait malheureux et pour quelque temps presque incapable de rien faire. Mon cœur était brisé. 6 mois durant, je priais avec la force du désespoir de tout mon cœur. Mes prières restèrent sans réponse. Je résolus alors de me rendre dans tous les lieux de culte de la ville que j'habitais pour découvrir le chemin du salut. J'étais prêt à faire n'importe quoi, si seulement Dieu voulait m'accorder son pardon. Je commençais donc la tournée des églises. Je vénère et j'aime aujourd'hui ceux qui en occupaient alors les chairs. Cependant, je suis obligé de dire que je n'ai jamais entendu aucun d'eux prêcher l'évangile complètement. Par là, j'entends qu'ils prêchaient assurément la vérité, de grandes vérités, d'excellentes vérités, qui étaient probablement en rapport avec les besoins de leur congrégation, composée de chrétiens déjà spirituels. Mais jamais je n'y entendis ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire comment mes péchés pouvaient être pardonnés. Enfin, un certain jour d'hiver, une tempête de neige m'empêcha d'aller à l'endroit où j'avais décidé de me rendre. Obligé de m'arrêter en route, je me trouvais dans une ruelle obscure qui aboutissait à une cour. Il y avait là une petite église que j'ignorais tout à fait. Je m'assis, le service commença. Mais aucun pasteur ne vint. Sans doute était-il bloqué par la neige. Enfin, un homme très maigre monta en chair et ouvrant la Bible, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45 et au verset 22, c'était le verset qui était affiché tout à l'heure, il lut ces mots. « Regardez à moi, vous, toutes les extrémités de la terre, et soyez sauvés. » Le texte seul me fit du bien. Puis le prédicateur improvisé dit combien c'était chose facile que de regarder, combien il était nécessaire de regarder à Christ et non pas à soi-même. Regardez à Christ, il vous dit. Regardez à moi, voyez les grumeaux de sang. Regardez à moi, je suis cloué au bois. Regardez à moi, je suis mort, enseveli. Regardez à moi, je suis ressuscité. Je monte au ciel, je suis assis à la droite du Père. Ô pauvre pécheur, regarde à moi. L'orateur, m'apercevant alors et devinant aisément que j'étais étranger, me regarda comme s'il avait lu sur ma figure la tragédie de mon cœur, et s'adressant directement à moi, il me dit « Jeune homme, vous êtes malheureux. » Sûrement, je l'étais. Et il ajouta « Et vous le serez toujours, à moins que vous ne regardiez à Christ. » Puis, élevant les mains, il cria, comme seuls peuvent le faire les méthodistes primitifs, « Regardez, regardez, regardez !» Ce n'est que cela. « Regardez, vous n'avez qu'à regarder et vous vivrez. » Et à l'instant, la lumière se fit en moi et je vis le chemin du salut. Oh, comme mon cœur bondit alors de joie. Je ne sais plus bien ce que dit ensuite le prédicateur. Une seule pensée me possédait. C'était comme pour le serpent d'airain dressé au désert. Les Israélites n'avaient alors qu'à regarder pour être guéris. Je m'étais attendu à devoir faire 50 choses. Mais lorsque j'entendis le mot « regarder », celui-ci résonna délicieusement à mes oreilles. Je regardais sans pouvoir détacher les yeux du salut offert. Et dans les cieux, je regarderai encore. Je regarderai toujours. C'était en janvier 1850. Charles Spurgeon avait alors 15 ans et demi. Vous avez compris que regarder à Christ, ça ne se fait pas avec ces yeux-là. Ça s'est fait avec les yeux du cœur, de sorte que même un aveugle peut regarder à Jésus-Christ. Le texte de ce matin dit « Quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. » Quiconque. Jésus dit, juste après avoir cité ces versets 14 et 15 dans Jean chapitre 3, il dit au verset 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous avez peut-être pensé en écoutant ces paroles, mais moi c'est pas une fois que j'ai été mordu, c'est des centaines de fois. Est-ce que je peux moi aussi être encore sauvé? La Bible dit, et Jésus dit, quiconque, qui que vous soyez, quel mal que vous ayez fait, regardez à Jésus-Christ et soyez sauvés. Confiez-vous en lui de tout votre cœur. Il a déjà tout accompli, le salut de vos âmes. Prions Dieu.